Cisjordanie depuis son annonce par Washington fin janvier. Pas d'État palestinien sans vallée du Jourdain. La Palestine n'est pas à vendre, peut-on lire sur des pancartes. Ce n'est pas la première fois que des manifestations ont été organisées en Cisjordanie.
Bienvenue sur VO Afrique, comme tous les lundis, entre 19h et 19h30, vous avez rendez-vous avec votre magazine de sport. Ce soir, Sporama fait le point de l'organisation par le Gabon de deux Coupes d'Afrique des Nations de football. Au microphone, Ismaël Obianzé. Depuis sa création en 1957, avec l'honneur qui revenait au Soudan d'organiser la première édition, la Coupe d'Afrique des Nations de football est devenue au fil du temps la compétition majeure du continent africain. En 2012, soit 55 ans plus tard, le Gabon, petit pays d'Afrique centrale, accueille sa première CAN, puis réédite l'exploit de son organisation en 2017, au détriment de la Libye secouée par une instabilité politique. 8 ans et 3 ans plus tard, pour la première et l'organisation de la CAN, la deuxième CAN, sur les pelouses gabonaises, quels sont les acquis de ces deux événements majeurs du sport roi et quelles perspectives envisager si c'était à refaire? De tout ceci, on en parle avec Berlek Lekoba, journaliste par ailleurs, manager général de Gazon d'Afrique, une structure de communication et de marketing sportif, et Ange Asnela Pambo, journaliste ancien commissaire à la commission communication à la défunte Commission nationale d'organisation et de gestion des événements sportifs à caractère national et international, ce qui fait en abrégé. Bonsoir messieurs.
Bonjour Ismaël.
Que doit couler sous le pont? Que retenir de ce qui hier faisait la fierté de toute une nation? Je vous propose d'écouter Brice Inenge de Matsonga. Il est le président de l'association des supporters de l'équipe Fanion du Gabon.
On a vécu des moments inoubliables, principalement la CAN 2012, qui était une CAN, qui était la première d'ailleurs qu'on organisait au pays, qui était le plus grand événement sportif que les supporters vivaient au Gabon. Nous l'avons vécu avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de joie surtout, et on n'a pas pu retrouver la même joie en 2017 parce que c'était du vécu déjà.
Qu'est-ce qui marque, les rencontres ou bien le football sur le terrain?
Au Gabon, on a rencontré par exemple Samuel Eto'o fils, qui est quand même aujourd'hui l'icône africaine dans le football. Nous l'avons rencontré dans des conditions vraiment particulière, parce que nous sommes arrivés avec Gando Piquet, qui est le supporter numéro 1 au Cameroun, qui fait le tour d'ailleurs du monde avec le Cameroun. Nous l'avons rencontré ce jour-là à l'hôtel, à la CAN 2017 par exemple. Nous étions assis avec Gando en train de discuter de football, d'organisation. On se chahutait sur qui allait gagner la rencontre Gabon-Cameroun. Et puis il décide comme ça que, si vous voulez, je vous présente un vieux lion. On lui montre qui, parce qu'on parle de vieux lions, non pas, on pense
Roger
Mila, Rigo Berson, pour nous faire. Il dit non, attendez, j'arrive. Et puis, il monte à l'hôtel où étaient logés les joueurs, il nous demande d'attendre dans le hall, et puis, il débarque avec Samuel Eto'o. Vous imaginez un peu, quand vous tombez, nez à nez avec Samuel Eto'o, comme ça, c'est, pour les jeunes joueurs, les jeunes supporters qui m'accompagnaient, c'était quelque chose de grandiose.
Et surtout, vous apprenez les cultures des autres, surtout pour le Gabon.
Oui,
qui a été le Gabon.
Oui, on apprend les cultures des autres, surtout. Moi, j'ai conduit les panthères du Gabon avec les panthères noirs en Guinée équatoriale. Beaucoup de jeunes gabonais qui sont membres de l'association n'avaient jamais quitté le Gabon. Ils arrivaient en Guinée équatoriale pour la première fois. Ça a permis à certains jeunes de comprendre qu'en dehors du Gabon, il y a la vie ailleurs. Comment les autres vivent, qu'est-ce que les autres mangent, qu'est-ce que les autres boivent. Ça permet de comprendre le monde qui entoure les autres. Et quand vous revenez au pays, vous avez
une autre lecture
de ce qui peut se faire. Vous dépassez les clivages, vous dépassez les idées reçues, et vous savez que ailleurs, il y a la vie, ailleurs, l'air est aussi verte que chez nous.
Passé l'euphorie de ces deux compétitions, il y a quelques questions de fond qu'elles soulèvent. Rien que la co-organisation de la CAN 2012, le gouvernement avait décaissé 400 milliards de francs CFA, chiffre officiel, pour financer la compétition. Avec une telle cagnotte qui donne le tournis, y avait-il tant que ça à faire pour justifier un tel budget? Ange Pambo.
Merci Ismaël pour l'honneur que vous me faites de participer à cet échange sur les retombées de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 et 2017 organisée par le Gabon. Oui, 400 milliards de francs CFA. Je crois que le gouvernement gabonais avait mesuré l'ampleur de la tâche. Et faut-il rappeler à vos auditeurs que le Gabon était un pays dépourvu d'infrastructures sportives de pointe arrimées aux standards internationaux avant l'organisation de ces différentes Coupes d'Afrique des Nations de football. Il fallait donc sortir de terre des infrastructures adaptées donc à l'événement afin de pouvoir nous arrimer au cahier de charge de la Confédération africaine de football. Et il faut rappeler qu'au-delà de l'aspect lié aux infrastructures sportives, il y a également le côté événementiel en termes d'organisation, du tirage au sort, mais aussi d'un ensemble d'actions de promotion de l'événement dévolu à la commission en communication du COCAN Gabon 2012. Donc je crois que les 400 milliards ont non seulement servi à la construction du stade de l'amitié sino-gabonais situé dans la commune d'Akanda au nord de Libreville, mais également à réhabiliter le stade rénovation de Franceville et de construire un stade annexe, celui d'Agondje, le stade annexe d'Ombaya à Franceville, de construire également des infrastructures hôtelières pour pouvoir loger les officiels et les équipes qui avaient pris part à cette Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale en 2012, et l'hospitalité aussi, parce qu'il faut quand même rappeler que le Gabon, en termes d'organisation, a reçu le satisfecit de la Confédération africaine de football pour la qualité justement de cette organisation-là, et pour ce qui est de l'hospitalité, de l'offre de services mise en relief par le Gabon n'avait pas lésiné sur les moyens pour faire en sorte justement que ce côté lié à l'hospitalité puisse être la plus-value finalement dans l'organisation de la dite compétition.
Et pour la CAN 2017, on a fait un peu plus ou un peu mieux que lors de la première édition de la CAN. Le Gabon a sorti de ses caisses 463 milliards de francs CFA, des chiffres qui sont certainement contestables, ce qui fait pour les deux CAN jumelées plus de 800 milliards de francs CFA. Le niveau de réalisation des infrastructures sportives correspond-il aux dépenses effectuées par le Gabon, Berlek Lekoba?
Alors, quand je fais une petite comparaison avec le Mali qui avait organisé la CAN sur des vertes en 2012, je crois, le Mali avait dépensé un montant de 120 milliards de francs CFA. Et donc, on essaye de faire la comparaison et constater que le Gabon est largement au-dessus. Et si la CAN 2012 peut avoir une justification en termes des finances, parce qu'on sortait pratiquement tout de terre, en termes de stade, en termes d'hôtellerie. En 2017, ça me paraît quand même un peu excessif, parce qu'on avait déjà à peu près quelques acquis et qu'il fallait tout simplement améliorer un certain nombre de choses. Et donc, cette somme était assez énorme, mais surtout quand on pense que juste après, parce que quand on construit, évidemment, il y a une continuité, et on a vu un petit peu dans la continuité comment certaines infrastructures sont tombées un petit peu en ruine.
De cela, on en parlera.
Et bien sûr. Donc, ça veut dire, moi, je conclus simplement que ce montant, il est tellement énorme et ne se justifie pas convenablement.
On entre progressivement dans le vif du sujet, même si je voulais encore ajouter quelque chose dans le vif du sujet avec la gestion des investissements de ces deux CAN au Gabon. Je vous propose d'écouter le point de vue de Rémi Ebanaga, l'ancien international de football gabonais, devenu par ailleurs expert en management de sport.
Il faut tout un projet autour des infrastructures. On a les stades, on a aussi les gymnases. Donc, s'il n'y a pas cette réflexion qui est menée en avant, et si cette réflexion n'est pas menée, ben on va se retrouver avec ce qu'on appelle les éléphants blancs après.
Les études d'avant CAN ont montré certainement que le pays disposait d'un potentiel à la hauteur du défi. Les stades et les hôtels ont poussé un peu partout, comme le disait Ange, mais manque d'entretien quelques années plus tard. À qui la faute? À l'État ou aux collectivités locales qui pouvaient aussi en assumer le suivi? Ange.
Ismaël, si vous me permettez de revenir rapidement sur la première question relative justement à la différence notoire observée entre les investissements consentis en 2012 et 2017 avec un gap de 63 milliards de francs CFA, je pense au-dessus en ce qui concerne la CAN 2017. Peut-être rappeler qu'en 2012 nous étions en co-organisation avec la Guinée équatoriale et qu'en 2017 le Gabon a organisé seul cette compétition sur 4 sites. Donc en 2017, on a eu 2 sites supplémentaires, ceux de Port-Gentil et d'Oyem, avec 2 stades, avec 2 compétitions, je veux dire, et de 20 000 places, et puis des stades annexes et des hôtels également construits ou réhabilités dans ces deux provinces-là. Donc ça peut peut-être expliquer le fait que le budget a été à la hausse en 2017. Maintenant, pour revenir proprement à la question que vous venez de poser.
Sur le suivi des infrastructures.
Oui, il faut noter, premièrement, que les autorités gabonaises, fort du satisfecit adressé par la Confédération africaine au Gabon, après la CAN 2012 et 2017, ont pensé qu'il fallait capitaliser justement cette expérience acquise par le Gabon après l'organisation de ces événements, notamment 2012, en créant 2 infrastructures. Une dédiée pour l'entretien des infrastructures sportives, la Najaïsk, et une autre pour l'événementiel, la CNOJ MCENI. Donc, il y avait là des outils ou un outil, un instrument dédié pour l'entretien des stades, c'est parfois d'avoir pensé. Je crois que la situation économique difficile par laquelle le pays est passé après la CAN 2012, donc à partir de 2014, peut justifier le fait que le pays soit rentré dans une période de récession économique et que cet outil-là n'ait pas eu les moyens nécessaires, financiers nécessaires, qui lui permettaient de pouvoir mener à bien la mission qui lui avait été, donc confiée par l'État, celui d'entretenir ces mastodontes. L'ensemble de ces infrastructures sportives disséminées sur 4 provinces. Donc voilà. Mais ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, il y a des efforts qui sont également faits par l'État, qui a pu, à travers la loi de finances, trouver une ligne de crédit qui viendrait soutenir cette action d'entretien, de maintenance de ces infrastructures-là.
Là, n'est qu'une proposition encore, on n'est pas encore dans la phase de la concrétisation de cette loi. C'est bien de le relever, on va en parler. Est-ce qu'il n'est pas possible, Berlin, le combat de se dire l'État central a fait sa part en offrant au Gabon les 2 Coupes d'Afrique des Nations de football et qu'il revient aux administrations décentralisées de capitaliser tous ces investissements.
Mais justement, à ce niveau, il faut indiquer que c'est l'État qui joue un petit peu le rôle de centralisation de tout. C'est-à-dire qu'en même temps, on peut se dire l'État a construit et l'État peut passer la main. Mais c'est encore l'État qui joue un petit peu les confiscateurs, entre guillemets, de ces infrastructures-là. Il aurait peut-être fallu que l'État se prononce clairement sur la gestion de ces infrastructures, par exemple les infrastructures d'OIM, les infrastructures de Port-Gentil, en disant, bah, écoutez, ces infrastructures vont être gérées par des municipalités. Mais c'est l'État qui a tout de suite mis en place la Najaïsk, qui est une agence pour la gestion de ces infrastructures-là.
Une agence qui n'existe plus aujourd'hui.
Et donc, après, qu'est-ce que ça devient? En fait, on remarque que c'est l'État qui supporte la gestion, les coûts financiers de toutes ces infrastructures-là. Et évidemment, sur le long terme, avec les difficultés financières dans lesquelles le Gabon s'est retrouvé, eh bien, c'est ce même État qui, progressivement, s'est retrouvé un petit peu écrasé au point de voir progressivement ces différentes infrastructures complètement en lambeaux.
Ange. Juste également pour aller dans le sens mis en relief par Berlek Lekoba, rappeler effectivement que il serait mieux que l'État au Gabon s'arrime aux standards internationaux, parce que dans tous les pays du monde, notamment les pays développés, les infrastructures sportives sont du ressort des collectivités et non des clubs et non de l'État. On peut déjà applaudir le fait que l'État est en train de réfléchir sur le transfert de compétences en ce qui concerne un autre domaine, hein, la collecte des ordures ménagères aux collectivités locales. Il faut donc emmener, il faut pousser l'État justement à s'arrimer à ces standards internationaux, faire en sorte que les villes, les municipalités, les collectivités soient les propriétaires de ces infrastructures-là à travers des lois qui seront votées pour que ce soit les municipalités qui gèrent elles-mêmes ces infrastructures qui pourraient générer également des fonds.
L'avantage avec vous deux, c'est que vous êtes des journalistes et à vous de susciter le débat. Vous suivez Sporama sur VO Afrique et nulle part ailleurs. Ce soir, nous dressons le bilan des 2 CAN, des 2 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations de football organisées par le Gabon en 2012 et 2017. Mes invités sont donc Berlek Lekoba, manager général de Gazon d'Afrique, et Snella Ange Pambo, ancien commissaire à la commission communication de la défunte Commission nationale d'organisation et de gestion des événements à caractère national et international. Monsieur, vous le savez tout autant que moi, que la Coupe d'Afrique des Nations de football a obtenu sa notoriété et le respect du football mondial. Elle a permis l'éclosion de de grands noms comme celui du Camerounais Roger Mila ou de Djedjé Okocha du Nigeria. Et est-ce qu'il en est de même partout dans les pays qui ont eu le privilège d'organiser cette prestigieuse épreuve continentale? Évoquons à titre d'exemple le Sénégal en 1992. Nous avons au téléphone Sahel Sissoko, un journaliste sportif d'origine sénégalaise qui travaille pour Medi 1 TV Afrique, une chaîne panafricaine basée à Tanger au Maroc. Bonsoir Sahel.
Bonsoir cher Ismaël, bonsoir amis sportifs.
Alors quelle a été la plus-value de cette CAN sur la promotion du football sénégalais et que reste-t-il des infrastructures qu'elle a générées?
Il y a quand même ce qu'on appelle le paradoxe sénégalais, parce que depuis l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations en 92, autant le football sénégalais a gagné en prestige, autant les infrastructures se font rares aujourd'hui. En prestige parce que le Sénégal, dans toutes les catégories, hein, participe à toutes les compétitions africaines. Et l'exemple le plus patent, c'est la sélection A, qui a à son actif aujourd'hui deux phases finales de Coupe du Monde, avec notamment l'épopée de 2002, où les Lions s'étaient hissés à un quart de finale de Coupe du Monde. Et puis en 2002 également, ils avaient perdu la finale malheureusement face au Cameroun. La deuxième Coupe du Monde, c'était en 2018 en Russie. Et puis tout récemment, en 2019, le Sénégal malheureusement a perdu encore une finale de Coupe d'Afrique, cette fois-ci face à l'Algérie. Le football sénégalais s'est quand même placé sur la carte du monde, avec des footballeurs de renom. On pense à Elias Ousseynou Diouf, double ballon d'or africain. Et aujourd'hui, Sadio Mané, l'international sénégalais de Liverpool, qui rayonne sur la scène internationale. Voilà un peu le côté prestigieux du football sénégalais, qui est la première nation africaine selon le classement FIFA et puis 20e mondial. En même temps, dans le même temps, il n'y a pas d'infrastructure. Le plus grand stade du pays, le stade Léopold Sédar Senghor, construit en 1985, est fermé depuis très longtemps. L'autre stade également, le stade Demba Diop, qui a été construit en 1963, est fermé depuis le drame de juillet 2017. Même les matchs de l'équipe nationale, les rencontres que l'équipe nationale dispute maintenant, c'est à Kies, à 70 km de la capitale. Vous voyez un peu que les infrastructures manquent. Si les autorités actuelles ont des ambitions, ils ont des projets, surtout à Diamniadio avec la pose de la première pierre du nouveau stade, le stade du Sénégal, est en cours. Mais aujourd'hui, le Sénégal n'est pas capable d'organiser un grand rendez-vous continental, surtout une Coupe d'Afrique qui est passée maintenant à 24 pays. Et tout récemment d'ailleurs, le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, avait tendu la main à la Guinée, la Guinée-Conakry, pour que en 2025, les deux vieux voisins organisent la CAN en 2025. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a du boulot à faire. Il y a des infrastructures qui doivent être rafistolées, rénovées, d'autres qui doivent être mises en place. Mais le Sénégal aujourd'hui a un véritable problème sur le plan des infrastructures.
Merci Sahel Sissoko en direct de Tanger au Maroc. On en est à déduire que l'organisation des CAN du Gabon s'est révélée inopportune au constat du gâchis qui s'en est suivi au plan individuel, selon les commentaires que nous entendons. Hein, le footballeur s'en est-il tiré à bon compte? Je vais parler des contrats signés pendant ces périodes avec d'autres grands clubs africains ou européens.
Alors, je ne pense pas qu'il y ait des internationaux gabonais qui ont pu se mettre en évidence durant cette Coupe d'Afrique des Nations 2012. Daniel Cousin était sur quasiment le déclin, la porte de sortie. Pierre-Emerick Aubameyang s'était affirmé comme étant le leader d'attaque de cette équipe gabonaise. 2017 a vu émerger une nouvelle figure au sein de la tanière des fauves, celle de Denis Bouanga, qui a été, je crois, l'atout numéro 1 pendant cette Coupe d'Afrique des Nations 2017, même s'il n'avait pas marqué de but. Globalement, non, je ne pense pas que sportivement, enfants, sauf si Berlek, évidemment, complète ce que je suis en train de dire. Je vois pas très bien. Par contre, évidemment, que en ce qui concerne les infrastructures, oui, on a vu le nord de Libreville se développer. En ce qui concerne la vision globale, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, trois au total. Hein, on a organisé deux seniors et une cadette, deux Coupes d'Afrique en 2017, la senior et la cadette. C'est l'organisation de ces trois événements-là s'inscrivait dans une vision globale. À partir de 2013, Berlek est bien placé pour me le dire, le Gabon a lancé un championnat professionnel. Ça a été quelque chose de formidable, d'extraordinaire pendant 2-3 ans. Après, certaines difficultés sont apparues et je pense qu'il faut plutôt que l'État pense à mettre en relief un nouveau modèle qui ferait en sorte que on puisse jouir de ces infrastructures-là qui ont été construites dans le cadre de ces Coupes d'Afrique des Nations de football.
Pas de promoteur de football qui se soit installé, à mon avis, à Libreville pour ouvrir les centres de formation. À quoi a servi le luxe de la visibilité qu'on s'est offert en organisant ces deux CAN, Berlek et Koba?
Mais écoutez, la visibilité, il faut pas l'avoir une fois et puis vous vous arrêtez. Vous voyez, on n'organise pas une Coupe d'Afrique des Nations et puis vous vous arrêtez. Vous dites, bon, comme on a organisé en 2012, on a organisé en 2017. Bon.